Chapitre 18. C'est ainsi que je suis venue en Amérique, où je vis depuis 30 ans. Lorsque j'y arrivais, j'allais au collège, puis à l'université de Harvard, où j'étudiais le droit. Cette idée m'avait fortement déplu. Je voulais être poète, mais le cousin de mon père ne supportait pas que l'on déraisonnât. La poésie, avait-il dit. Te prends-tu pour un nouveau Schiller? Combien un poète gagne-t-il? D'abord, tu étudieras le droit. Ensuite, tu pourras écrire autant de poèmes que tu voudras, en temps voulu, en temps perdu. J'étudiais donc le droit, devins avocat à 25 ans et épousai une jeune fille de Boston dont j'ai un enfant. En tant qu'avocat, je ne m'en suis pas trop mal tiré, comme disent les Anglais, et la plupart des gens en conviendraient. En apparence, ils auraient raison. J'ai tout ce que l'on peut souhaiter. Un appartement donnant sur Central Park, des voitures, une maison de campagne, j'appartiens à plusieurs clubs juifs, et ainsi de suite. Mais je sais à quoi m'en tenir. Je n'ai jamais réalisé ce que je voulais vraiment, écrire un bon livre et un bon poème. Au début, je manquais de courage pour me mettre à l'œuvre, parce que je n'avais pas d'argent. Mais maintenant que j'ai de l'argent, je n'en ai pas le courage, parce que je manque de confiance. De sorte que dans mon fort intérieur, je me considère comme un raté. Non que cela importe vraiment, sub specie aeternitatis, nous sommes tous, sans exception, des ratés. Je ne sais où j'ai lu que la mort sape notre confiance dans la vie, en nous montrant qu'en fin de compte, tout est également futile devant les ténèbres finales. Oui, futile est le mot approprié. Je ne dois pourtant pas me plaindre. J'ai plus d'amis que d'ennemis, et il y a des moments où je suis presque heureux de vivre. Quand je regarde le soleil se coucher, et la lune se lever, ou lorsque je vois la neige au sommet des montagnes. Et il y a d'autres compensations, quand je suis à même d'exercer l'influence que je puis avoir pour une cause que je crois bonne, l'égalité raciale ou l'abolition de la peine capitale, par exemple. J'ai été satisfait de ma réussite financière, parce qu'elle m'a permis de faire quelque chose pour aider les Juifs à édifier Israël et les Arabes à établir certains de leurs réfugiés. J'ai même envoyé de l'argent en Allemagne. Mes parents sont morts, mais je suis heureux de dire qu'ils n'ont pas fini à Belsen. Un jour, un nazi fut posté devant le cabinet de consultation de mon père, portant cet écriteau, « Allemand, prenez garde, évitez tous les Juifs. Quiconque a affaire à un Juif est souillé. » Mon père revêtit son uniforme d'officier, arbora toutes ses décorations, y compris la croix de fer de première classe, et se mit en faction à côté du nazi. Le nazi devint de plus en plus embarrassé, et une foule s'assembla peu à peu. Les gens se tinrent d'abord silencieux, mais comme leur nombre allait croissant, il y eut des murmures qui éclatèrent finalement en raillerie agressive. Mais c'était au nazi que s'adressait leur hostilité, et c'est le nazi qui plia bientôt bagage et disparut. Il ne revint pas et ne fut pas remplacé. Quelques jours plus tard, alors que ma mère dormait, mon père ouvrit le gaz, et c'est ainsi qu'ils moururent. Depuis leur mort, j'ai autant que possible évité de rencontrer des Allemands, et je n'ai pas ouvert un seul livre allemand, pas même Hölderlin. J'ai essayé d'oublier. Bien entendu, quelques Allemands ont inévitablement croisé mon chemin, de braves gens qui avaient fait de la prison pour s'être opposés à Hitler. Je me suis assurée de leur passer avant de leur serrer la main. Il faut être prudent avant d'accepter un Allemand. Qui sait si celui auquel on parle n'a pas trempé ses mains dans le sang de vos amis ou de votre famille? Mais pour cela, aucun doute n'était possible. En dépit de leurs états de service dans la résistance, ils ne pouvaient s'empêcher d'éprouver un sentiment de culpabilité, et j'en avais du regret pour eux. Mais même avec eux, je prétendais avoir du mal à parler allemand. C'est là une sorte de façade protectrice que j'adopte presque inconsciemment, inconsciemment dans une certaine mesure pourtant, quand il me faut converser avec un Allemand. Naturellement, je parle encore parfaitement bien la langue, en faisant la part de mon accent américain, mais je déteste l'employé. Mes blessures ne sont pas cicatrisées, et chaque fois que l'Allemagne se rappelle à moi, c'est comme si on les frottait de sel. Un jour, j'ai rencontré un homme du Württemberg et lui demandé ce qui s'était passé à Stuttgart. « Les trois quarts de la ville ont été détruits, dit-il. Qu'est-il advenu du Karl Alexander Gymnasium ?»« Des décombres. Et du palais Hohenfels ? Des décombres. » Je me mis à rire sans fin. « Qu'est-ce qui vous fait rire ? » demanda-t-il étonné. « Oh, peu importe, dis-je. Mais il n'y a rien de drôle là-dedans, dit-il. Je ne vois pas où est le comique de l'histoire. » « Peu importe, répétai-je, il n'y a rien de comique dans l'histoire. » Qu'aurais-je pu dire d'autre? Comment aurais-je pu lui expliquer pourquoi je riais quand je ne pouvais le comprendre moi-même ?